Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception chez les jeunes. La contraception est l'ensemble des méthodes permettant d'éviter les grossesses non désirées, de prévoir, planifier et espacer les naissances en fonction des envies et moyens des femmes, des filles et ou des couples. Merci à nos invités d'être venus partager leur point de vue avec nous. Pouvez-vous vous présenter? Je vais commencer par à ma droite.
Bonjour. Je m'appelle Aïssatou Lamine Gueye. Je suis membre de l'association Les Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal.
Bonjour, je m'appelle M. Abdouaziz Mandian. Je m'occupe de programmes jeunes au niveau de l'association sénégalaise pour le bien-être familial.
Bonjour, je me nomme Bassirou Kassama, comme l'avis, je suis père éducateur dans le domaine de la SR Santé de la reproduction des adolescents jeunes.
Merci beaucoup à nos invités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter notre histoire du jour. L'histoire du jour nous plonge dans le parcours d'Aminata, qui, après un rapport sexuel non protégé, est à la recherche d'une pilule qu'on appelle la contraception d'urgence, ce pour éviter une grossesse. Écoutons son histoire.
Je m'appelle Ami. Il y a 4 ans, après un rapport sexuel non protégé avec mon copain, j'ai pris la décision de me procurer la pilule du lendemain pour ne pas tomber enceinte. J'étais en terminale et je devais préparer mon bac. Cette nuit d'octobre était très, très longue. J'étais donc sur pied dès 7 heures du matin. Je ne voulais pas faire de bruit pour alerter mes parents. J'avais l'habitude de me réveiller tôt quand même. Mon absence pendant cette matinée pouvait passer inaperçue, d'autant que c'était pendant l'année scolaire. Je me rendais au centre de Garga, situé dans la périphérie de ma commune. Mais il fallait que je le fasse parce qu'il n'était pas question d'aller au poste de santé de mon quartier où tout le monde connaissait tout le monde. À la porte du centre, mon attention a été attirée par cette innombrable foule qui faisait la queue pour acheter des tickets de consultation. Pour être plus discrète, je m'approchais du portail pour parler à l'agent qui réglementait l'entrée des véhicules. « Bonjour monsieur, » lui dis-je. « Où se trouve... Devant mes hésitations, il me rétorqua. « Parlez ou allez-vous-en, j'ai du travail moi. » Alors l'enthousiasme qui m'habitait depuis le matin fit place à un découragement. Et au même moment, une voix retentit d'un véhicule qui sortit du centre de santé. « Ami, ami, que fais-tu ici ?» Tu es malade? Et ta mère? Comment va la famille? C'était tante Maggie, une amie de ma mère. Devant cette surprise incalculée, je lui répondis. Tante Maggie, non, je vais bien. En fait, je suis tout simplement ici pour une visite médicale pour le bac. Oui, c'est ça, une visite médicale pour le bac. Après 2 minutes, elle poursuivit son chemin. Et moi, j'étais perplexe devant le centre de santé. Alors le découragement que je ressentais fit à son tour place à une angoisse. Et si tante Maggie en parlait à ma mère? Après son départ, je fis la queue pendant une dizaine de minutes, en ressassant dans ma tête toutes les éventualités possibles. Une fois à l'intérieur du centre, j'ai poireauté pendant plusieurs minutes, dans l'espoir de trouver une indication sur le service de planification familiale. Puis je tombe sur une femme visiblement plus âgée que ma mère, à qui je demande « Bonjour madame ». Je cherche le service de planification familiale. Elle me répondit catastrophée. Planification familiale? Ma fille pourra faire, à ton âge? Ah, les filles d'aujourd'hui. Non, madame, répondis-je. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis élève et je dois faire un exposé de classe sur le thème. Elle me regarda fixement pendant 3 secondes et me fit un geste du doigt en me disant « Bon, c'est là-bas ». L'angoisse grandissait davantage et je venais de mentir une seconde fois pour avoir l'information. Je pris à nouveau mon courage pour me diriger vers l'entrée du pavillon, car il n'est pas question que je tombe enceinte. Il me faut cette pilule. Oui, il me la faut. Devant la porte, j'ai trouvé que des femmes. Aucune fille de mon âge n'était assise sur le banc. Je restais à nouveau postée là, en attendant mon tour. Quand j'ai ouvert la porte, là encore, c'était une femme de l'âge de ma grand-mère qui était devant moi. « Asseyez-vous, ma fille. » Là aussi, j'eus droit à un véritable interrogatoire de police avant de m'entendre dire « Allez chercher ça à la pharmacie du coin. » J'étais découragée cette fois-ci. Découragée, d'autant plus que dans cette petite bourgade, tout le monde se connaissait et allait à cette pharmacie. Alors, j'ai pas pu y aller, de peur d'y rencontrer quelqu'un qui me connaissait. Après tout, je venais d'y rencontrer fortuitement ma tante Maggie. J'ai décidé alors de laisser tomber et de prier fort, très très fort, pour que ce rapport inopportun ne suive pas une grossesse. Sur ce, je retournais sur mes pas. Une fois arrivé dans mon quartier, il faisait presque 13 heures. Je me suis fondue dans le groupe d'élèves qui revenaient du lycée pour rentrer à la maison comme si rien n'était. Quelques mois après, à la suite d'un malaise, le diagnostic tombe tel un couperet. J'étais enceinte. Nous étions au mois de février déjà. Cette année-là, je n'ai malheureusement pas pu faire mon bac. J'ai porté la grossesse à terme en quittant momentanément l'école. Et figurez-vous, mon enfant Salif est né le jour de la proclamation des résultats du bac. Mes camarades de classe avaient leur bac, et moi, je venais d'avoir un enfant. Par la suite, je devais m'occuper de mon enfant et reprogrammer le bac l'année suivante. Fort heureusement, à force d'abnégation et de courage, j'ai eu mon bac à 20 ans avec la mention. Aujourd'hui, je suis étudiante en 3e année à l'université. Et parallèlement, je fais partie d'une association dénommée Lumière, qui milite en faveur des droits sexuels des ados. Alors si j'ai tenu à raconter ici les différentes péripéties de mon histoire, ce n'est point dans un but anecdotique. Il ne m'est pas non plus venu à l'esprit de vouloir faire le procès de ma société ou de nos services de santé, mais juste pour inciter à repenser la communication autour de la planification familiale pour les jeunes. Je veux juste que mon histoire serve de révélateur de tout ce que vivent les jeunes devant de telles situations, en termes de découragement, de crainte, de jugement de valeur, de critique et d'insinuation qui peuvent avoir des conséquences le plus souvent dramatiques.
C'était notre histoire racontée par Aminata. Est-ce que nous sommes vraiment informés sur la contraception? Pour en avoir le cœur net, j'ai tendu mon micro à des personnes dans la rue. Écoutons-les.
Est-ce que vous connaissez la contraception?
Oui, je connais la contraception. D'ailleurs, je l'utilise très souvent. Il y a deux formes de méthodes que je connais. C'est la pilule et l'implant. Il y a aussi d'autres méthodes que les femmes utilisent, comme il y a des piqûres que les femmes font, mais je ne l'ai jamais essayé. Mais la pilule, là, je l'ai utilisée une fois, deux fois. Je l'utilise souvent d'ailleurs.
Il y a le brin. L'appareil qu'on met ici à la main. Mm-hmm. Je connais que deux. La contraception, c'est d'espacer les naissances pour bien préparer les enfants à la maison pour ne pas avoir beaucoup d'enfants parce que la vie est dure.
Deux méthodes, non, sincèrement, non. Non, je n'ai pas une connaissance très approfondie là-dessus, mais j'entends parler, et bien que je n'ai pas rencontré des spécialistes en cette matière qui peuvent vraiment me donner toutes les informations par rapport à la contraception.
Vous ignorez totalement ce que c'est que la contraception?
Absolument.
Il y a la piqûre, il y a les comprimés, il y a ce qu'on appelle le brin. À moitié, c'est une bonne chose pour, par exemple, les femmes qui ne sont pas en bonne santé, parce que tout état de grossesse doit avoir normalement une différée du moins de 2 ou 3 ans.
Il y a pilule, piqûre et appareil.
Mais est-ce que vous invitez les femmes à adopter ces méthodes?
Pas toutes les femmes.
Donc toutes les femmes ne devraient pas adopter cette
méthode? Non, pas toutes les femmes.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission « Ensemble faisons entendre la voix des jeunes ». Notre thème du jour porte sur la contraception chez les jeunes. Alors, avant de continuer le débat, j'aimerais vous donner quelques informations sur la contraception. Au Sénégal, seuls 3,3% des filles de 15 à 19 ans utilisent une méthode contraceptive moderne. 21% des filles de 15 à 19 ans mariées souhaiteraient utiliser une méthode contraceptive, mais ne le font pas. Ce sont des chiffres donnés par l'Institut Guttmacher en 2016. Les besoins non satisfaits sont moins élevés chez les filles de la même tranche d'âge non mariées. Les filles mariées sont donc une cible particulièrement importante et souvent oubliée en matière de planification familiale. Ces chiffres montrent qu'il y a une forte demande des jeunes et des besoins non satisfaits. Je vais maintenant donner la parole à mes invités, en commençant par Aissatou Lamine Gueye. Au vu des informations que nous venons d'entendre, est-ce qu'il vous arrive de parler de contraception entre jeunes?
Non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé de contraception entre jeunes parce que je me dis que je ne le pratique pas et mes amis aussi peut-être ne le pratiquent pas. J'en sais pas quelque chose. C'est pourquoi je n'arrive pas à parler de contraception, même si je le connais parce que je l'ai appris.
Bassirou Aissatou ne parle pas de contraception avec ses amis, même si elle les connaît. Et vous, est-ce que vous en parlez avec vos amis?
Je dirais que c'est un travail quotidien de parler des jeunes, de la contraception, de la santé, de la reproduction de manière générale. Parce qu'en tant que père éducateur, notre mission c'est de sensibiliser nos pères, de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent avoir une sexualité saine et responsable. Donc pour moi, c'est un travail de quotidien de discuter avec des jeunes, de parler avec eux et de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent vraiment se protéger et à la fin vraiment maîtriser leur sexualité pour éviter, comme les cas d'Aminata, des grossesses précoces, la contraception du VIH, IST, SIDA, etc.
Et surtout, ne pas parler de contraception ne veut pas dire ne pas connaître la contraception. Est-ce que vous connaissez des méthodes de contraception?
Oui, je connais des méthodes de contraception parce qu'il y a des méthodes, il y a des méthodes modernes et des méthodes traditionnelles. Et pour les méthodes modernes, je connais les préservatifs masculins comme féminins. Et je connais aussi les pilules. Il y a des pilules comme les contraceptifs oraux qui sont utilisés peut-être chaque jour ou bien à une durée limitée. Mais il y a aussi une pilule du lendemain qui est utilisée le jour qui suit les rapports sexuels. Il y a aussi les implants qui sont des petits bâtonnets ou des capsules en plastique qui sont placées sous la peau. Et il y a aussi le DIU, c'est le dispositif intra-utérin, je connais. C'est une armature en forme de T qu'on implante au niveau de l'utérus. Il y a aussi la méthode des jours fixes, ce qui permet aux femmes de calculer leur période de fécondité pour éviter les rapports au niveau de durant cette période. Il y a aussi la stérilisation masculine comme féminine. Et pour la stérilisation masculine, il s'agit d'obturer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes jusqu'au pénis. Et pour la stérilisation féminine, il s'agit d'obturer les trompes de Fallope pour éviter que les ovules se déplacent. Et pour la méthode traditionnelle, je connais le coït interrompu, c'est-à-dire il faut éviter d'éjaculer au sein du vagin. C'est ces méthodes que je connais en grosso modo.
Monsieur Mandia, on a écouté l'histoire d'Aminata, très poignante d'ailleurs, mais également écouté le micro-trottoir réalisé pour la circonstance. Est-ce que le problème d'accès à l'information pour les jeunes ne se pose pas?
Nous sommes partis de l'histoire d'Aminata pour essayer d'apporter ou d'éclairer un tout petit peu la lanterne de nos auditeurs et auditrices, mais aussi des invités qui sont autour de la table. Mais retenez que la contraception est dans un ensemble de sexualité et de santé reproduction des adolescents et jeunes. Donc nous ne pouvons pas parler de la contraception chez les jeunes en faisant fi de notre contexte socio-culturel et politique. Pour parler de la contraception chez les jeunes, il faudrait peut-être ne pas la sortir de la santé sexuelle et reproductive des jeunes qui a pour objectif de renforcer les aptitudes de ces adolescents et jeunes pour leur permettre de faire un bon choix. Maintenant, la connaissance, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des communautés, des populations, des adultes, de la planification familiale reste. Il faudrait que nous, dans nos interventions, aussi bien des structures de la société civile que l'État, accentue davantage toutes les interventions possibles pour faire l'accès à l'information une de leurs priorités. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas accès, l'accès est limité ou les informations ne sont pas claires à leur niveau. Mais depuis un bon moment, nous tous, dans une dynamique salutaire, nous travaillons avec l'État, avec les structures sanitaires publiques ou privées, avec les médias pour que l'information soit accessible aux populations, y compris aux jeunes. Maintenant, le débat sur lequel j'aimerais peut-être profiter de cette occasion, y revenir, c'est que toutes les fois qu'on parle de contraception, ça crée les polémiques. La polémique, c'est quoi? C'est des gens qui ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dit en termes de message. Aujourd'hui, on parle de sexualité, on dit non, ce n'est pas bon pour les jeunes. Or, les jeunes ont des besoins. Ils ont des besoins naturels ils ont des rapports sexuels. Ça, c'est le constat. Nous n'inventons rien. Aujourd'hui, les enquêtes démographiques sanitaires du Sénégal, les 5 dernières années, sont en train de nous relever les comportements sexuels des jeunes. Face à cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons nous taire pour ne pas parler de contraception chez les jeunes? Non, nous n'allons pas nous taire. C'est tellement important, c'est tellement vaste que nous avons l'impression que rien n'a été fait pour ces jeunes. Parce que le fait de donner des informations sur la planification ne veut pas dire que la jeune fille ou le garçon vont s'adonner à des relations sexuelles.
Monsieur Magnan, certaines voix s'élèvent pour dire que parler de la contraception chez les jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est les pervertir. Votre opinion par rapport à cette situation?
Donc moi, je pense qu'il faudrait repréciser ça à nos auditeurs et auditrices et aussi aux jeunes qui nous écoutent et qui vont peut-être relayer certaines informations. Parler de la planification familiale chez les jeunes, ce n'est pas créer la débauche. Par contre, nous savons que les jeunes ont des relations sexuelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait les préparer pour éviter tous ces désagréments-là, comme le cas d'Aminata, qui aujourd'hui, si elle avait des services accessibles à elle, rien que pour l'information, peut-être qu'elle n'allait même pas avoir un comportement à risque où elle va tomber enceinte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dommage que le débat, on ne le pose pas comme ça, mais on le pose sur est-ce que la religion est pour... Nous savons que la religion est contre sur beaucoup d'aspects que nous faisons. Mentir, la religion est contre le mensonge et pourtant nous continuons de mentir. Pourquoi aujourd'hui le débat sur la contraception, on veut l'amener à des aspects purement socioculturels en y mettant la religion? Le jeune ou la jeune fille qui est sexuellement active, est-ce qu'on connaît les raisons? On ne connaît pas les raisons. Si je suis violé, je dois me protéger, on me dit qu'il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, si vous prenez l'EDES, ça veut dire que même ces jeunes-là qui n'ont pas, qui sont sexuellement actifs et qui n'ont pas accès aux méthodes contraceptives courent le risque d'avoir des IST. Ça, c'est le grand problème. Aujourd'hui, le phénomène des IST est tellement alarmant chez les adolescents et les jeunes que si on n'y prend pas garde dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années, ça va être vraiment un fléau très, 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 très complexe à prendre en charge sur le plan santé publique.
Bassirou, pensez-vous qu'avoir des informations sur la contraception va pervertir les jeunes?
Il est important aujourd'hui que ce problème de contraception, comme l'a dit M. Magnan, soit plus un problème de communication ou bien où tout le monde essaie de stigmatiser, de voir seulement le mauvais côté concernant. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que ça peut aider vraiment des jeunes à continuer à atteindre leurs objectifs dans leur vie. Parce qu'un jeune qui te dit que moi, je suis sexuellement attiré, je me parle, mais qui a eu le réflexe de se protéger, mais ça peut l'aider pour à continuer ses études et aller vraiment atteindre ses objectifs et autres. Donc je pense que vraiment, au moment où nous sommes, on doit vraiment dépasser cela, essayer de se concentrer, parce qu'aujourd'hui, l'avenir, on dit que c'est les jeunes. Et ça, à quoi ça sert d'investir sur les jeunes si les jeunes aujourd'hui ne sont pas en bonne santé? Et pour ça, il faut donner l'ensemble des moyens qui pourront permettre à ces jeunes d'être en bonne santé et de vivre réellement leur vie.
Monsieur Magnan, pourquoi on n'arrive toujours pas à dépasser ce stade de la communication?
Moi je pense que nous sommes des êtres humains avec nos croyances, nos valeurs. Donc, et c'est un processus aujourd'hui. Malheureusement, moi j'ai l'habitude de le dire toutes les fois que je suis invité. Vous voyez, nous sommes dans un contexte où la notion de valeur n'a plus de sens. Aujourd'hui, qui est qui? À quoi les jeunes se réfèrent? La dernière fois, j'étais invité avec un imam ou un oustas. Je lui dis, mais ces jeunes-là, à qui on ne donne pas l'information, ces jeunes qui sont sexuellement actifs, ces jeunes qui ont des rapports sexuels pour plusieurs raisons, d'où viennent-ils? Ils viennent de nos maisons. C'est ma petite sœur, c'est mon petit frère. C'est nous. Donc, et dans une famille, tu peux avoir l'idée d'inculquer une bonne éducation à tes enfants. Mais celui ou celle qui va d'un mauvais côté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les ramener et les aider. Voilà le débat sur lequel nous avons peur de débattre avec nos enfants, nos frères, nos sœurs sur les questions de sexualité. Et maintenant, pof, on dit non, c'est pas bon. Il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes et que nous continuons tous dans la société de manière générale de le faire. Donc pour moi, le débat, honnêtement, c'est de ne pas dire, de ne pas sortir même la contraception comme un aspect à part. C'est une partie intégrante de la sexualité des populations, y compris les adolescents et les jeunes. Si nous voulons encadrer les jeunes, nous n'aurons pas à avoir peur d'assurer l'éducation. Parce que l'éducation ne se limite pas simplement à dire à l'enfant « va à l'école, fais de bons résultats ». C'est de le préparer demain à être un citoyen, une citoyenne de demain, qui demain va assumer ses choix en faisant de bons choix sur son plan relationnel ou sexuel ou même sur le plan même sociétal. Un changement de comportement, ça ne se fait pas du tic au tac. Donc ça va prendre du temps. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons de grandes opportunités parce que la question même de la planification familiale, il y a 10 ans de cela, elle n'est pas posée comme elle est en train d'être posée. Donc on peut avoir l'espoir n'est-ce pas, de dire que nous allons continuer, mais avec des arguments essentiels qui nous permettent. Je suis entouré par des jeunes. Si ces jeunes-là comprennent, donc cela veut dire que c'est un investissement. Et l'investissement, on ne va pas l'avoir peut-être dans 2-3 ans, mais peut-être dans 5 ans ou 10 ans, ça va donner. Et nous avons espoir que les jeunes pères éducateurs ou tous les jeunes qui sont sensibilisés vont devoir demain être beaucoup plus attentifs par rapport à leur sexualité parce qu'ils auront à s'organiser et à être vraiment des leaders qu'on attend de demain.
Voilà. Aïssatou Lamine, est-ce que vous connaissez des jeunes sexuellement actifs? Si oui, est-ce qu'ils utilisent des méthodes contraceptives? Lesquelles?
Oui, j'en connais. C'est un ami. Oui, il est sexuellement actif, comme vous le dites. Il a beaucoup de partenaires. Et peut-être pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, il utilise des préservatifs. C'est ce qu'il m'avait expliqué parce qu'on se parle parfois. Donc, pas pour éviter la grossesse. Lui, son objectif, ce n'est pas d'éviter la grossesse, mais de se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Et pour revenir un tout petit peu au débat, parce que moi, je vois toujours des campagnes de sensibilisation, mais rares des campagnes de sensibilisation qui tournent autour de la contraception. Peut-être qu'ils ont peur d'aborder ce volet parce que c'est dû à la non-reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes. Comme on le dit, notre région, notre pays est fortement islamisé. Peut-être c'est dû à ça. Et donc, ces programmes de sensibilisation, ils ont peur d'aborder ce thème. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut insister sur la communication, sensibiliser ces jeunes, mais aussi, surtout, insérer l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Parce qu'on voit qu'il y a... C'est vrai qu'il y a l'économie familiale et sociale qui traite un peu ce volet de la contraception parce que c'est à partir de cette matière que moi je suis, c'est quoi la contraception. Mais ce n'est pas une matière obligatoire, c'est une matière où on choisit entre économie familiale ou bien sciences physiques. Donc il faudrait qu'on intègre cette matière d'éducation à la sexualité qui doit être obligatoire. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui diront que si on intègre cette matière, c'est pour, amener les jeunes à être sexuellement actifs, mais qu'ils sachent que la finalité, ce n'est pas ça, mais c'est la protection des maladies, surtout sexuellement transmissibles. Donc, les jeunes doivent avoir une connaissance sur la santé de la reproduction.
Voilà, M. Magnan, je vois que vous voulez ajouter quelque chose.
J'aimerais peut-être rebondir à l'entame de ces propos. Juste pour une minute, pour dire un tout petit peu, la sexualité, nous avons voulu créer un mot, mythe tabou. La sexualité n'a jamais été tabou dans nos sociétés, dans nos religions. Moi, je suis musulman et ma religion ne m'interdit pas de parler de sexualité. Non, la religion musulmane, à ce que je sache, je ne connais pas la religion chrétienne ou ce que disent les évangiles, mais la religion musulmane ne m'interdit pas de parler de sexualité. Ce que ma religion me demande de préserver, c'est ma pudeur. Voilà sur quoi la religion musulmane insiste. Mais ne m'interdit jamais d'amener mes enfants ou d'amener des gens de leur parler de sexualité. Nulle part dans le Saint-Coran ça a été dit. Maintenant, l'autre chose, c'est les gens ont voulu, par manque de connaissances sur la sexualité, n'est-ce pas, créer un mythe autour de ça. Mais dans nos traditions, la sexualité a toujours existé. J'ai l'habitude souvent de dire... dans les tassous qu'on utilise, madame koloban sama gina nenfa des sai modèle koloban, ça c'est des expressions sexuelles, ça a toujours existé. La question de la sexualité, si on prend de la contraception, autant pour moi, si on prend l'exemple d'Aminata, aujourd'hui nous savons tous que les jeunes ayant des comportements sexuels actifs, la contraception d'urgence est utilisée. Et là, peut-être pour repréciser les messages que j'ai entendus dans le récit, ça ne s'utilise pas le lendemain. Ça a été un vocable que les gens ont utilisé. Mais aujourd'hui, le vocable qu'il faut utiliser, parce que le rapport sexuel peut avoir lieu à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, il ne faut pas attendre le lendemain. À la suite d'un rapport sexuel non ou mal protégé, vous devez pouvoir utiliser une contraception d'urgence. Donc, oui, je dis bien le message. La contraception d'urgence s'utilise à la suite d'un rapport sexuel non ou mal protégé. Aujourd'hui, une fille est victime d'un viol ou une femme, elle pourra utiliser immédiatement après ce viol ou cet acte sexuel une contraception d'urgence. Donc, si aujourd'hui, je suis dimanche, j'ai un rapport sexuel aujourd'hui, le matin ou l'après-midi, si j'ai une pharmacie à côté, une structure de santé à côté, je peux aller chercher ma contraception d'urgence pour la prendre. Ce n'est pas maintenant une méthode qu'on utilise à la va-de-vie. C'est là où, pendant longtemps, nous avons voulu attirer l'attention des gens parce que ça ne vous protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Et pour ce qui concerne la pilule contraceptive d'urgence, elle est fortement dosée. Donc ça pourrait in fine abonner des dérèglements au niveau même du cycle hormonal. Voilà un tout petit peu le message sur lequel j'aimerais peut-être préciser ça. Et des études ont été faites au Sénégal il y a quelques années, le ministère de la Santé avec Population Cancer, et on a vu que cette méthode-là est fortement utilisée par les jeunes.
Bassirou Gassama, quelle activité menez-vous sur le terrain pour porter l'information au niveau des jeunes?
C'est une activité de routine que nous faisons parce que, comme je l'ai dit, en tant que prédateur, notre mission c'est de sensibiliser nos pères et de donner les bonnes informations. Donc il n'y a pas une journée où pratiquement on ne discute pas, on ne sensibilise pas nos pères. Même si c'est pas dans le cadre d'une activité, c'est-à-dire on part, on organise des causeries, des vêtements, mais même au niveau du quartier, en classe ou bien à l'école, qu'on le fait souvent, on partage nos informations qu'on a avec nos jeunes, pour juste vraiment adopter une sexualité responsable. Parce qu'ils l'ont dit, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est un peu très complexe par rapport à cela. Donc, c'est à nous jeunes aussi de pouvoir relever ce défi-là, de faire vraiment montrer que c'est un besoin et qu'on doit vraiment l'avoir aujourd'hui. Quand un jeune vraiment veut l'information, il faut qu'il nous le montre et que les parents ou bien les personnes adultes puissent l'aider à ce que vraiment que ceci soit fait. Ils l'ont dit, donc il faut vraiment qu'on essaie de voir par rapport à cela, comment essayer encore et d'aider les jeunes pour qu'ils puissent vraiment avoir l'information et bénéficier de ces services de santé conviviales.
Nous sommes dans un grand chantier avec les ministères de la Santé et de l'Éducation. Et l'intégration des questions d'éducation sexuelle à l'école, on y est, et je pense que ça, c'est un des chantiers sur lesquels nous allons faire la révolution. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes ont accès à l'information, parce qu'il faut qu'on précise à travers cette émission-là aussi que l'accès à l'information ne veut pas dire fondamentalement des comportements sexuels à risque. Et ces études ont montré que plus les jeunes ont de bonnes informations, plus ils sont en mesure de se protéger et de mieux préparer leurs avenirs. Moi, je suis surpris l'année dernière quand, pendant 3-4 mois, je reçois des étudiants qui sont mariés, qui sont dans cette tranche d'âge-là de 10-24 ans, qui sont mariés à l'âge de 20 ans, 23 ans, qui sont mariés et qui planifient leur naissance parce qu'elles ont envie de continuer leur doctorat ou leur master. Donc je me dis quelque part, l'information est là. Peut-être elle n'est pas partout comme on la veut, mais nous sommes sûrs qu'avec les pères éducateurs, avec les associations, en leur donnant de bonnes informations sur la sexualité, en leur donnant de bonnes informations sur la planification familiale, en évitant tout ce qui est rumeur, parce que c'est là où nous allons gagner cette bataille de la communication. Dire la planification familiale, c'est quoi? Quelles sont les méthodes qui sont disponibles? Quelles sont les méthodes sur lesquelles aujourd'hui une jeune fille ou une femme, en prenant une méthode, tu peux avoir des effets secondaires ou indésirables? Parce que c'est des produits. La planification familiale n'a que des bienfaits.
Et surtout, pensez-vous qu'il faut impliquer toute la communauté pour gagner la bataille de la communication?
Oui, bien sûr, il est nécessaire d'impliquer toute la communauté, les structures de santé, peut-être les collectivités locales. Il y a beaucoup d'associations, donc il faudrait que ces associations soient en partenariat avec les structures de santé pour pouvoir mener ce combat. En tant qu'association, notre mission, c'est de sensibiliser, notre mission, c'est d'éduquer. Donc, il faut qu'on soit en partenariat avec les structures de santé pour pouvoir mener ce combat. Parce que dans l'association, peut-être, il y a des gens même qui ne connaissent pas c'est quoi la contraception. Mais comme il l'a dit, il faut qu'ils nous donnent ces informations pour qu'on puisse les véhiculer au sein de la communauté.
D'accord. Bassirou, vous voulez ajouter quelque chose?
Voilà, pour rebondir ce qu'elle a dit, c'est important parce qu'une seule structure ou bien une seule organisation ne peut pas mener ce combat-là. Et à côté de cela aussi, il est important aussi qu'il y ait une synergie des acteurs, de l'ensemble des membres qui interviennent dans le domaine. Parce que parler de la contraception, essayer de communiquer avec les gens, c'est un peu complexe. Donc il n'est pas important qu'aujourd'hui qu'on ait une communication différente entre une structure ou entre par rapport à d'autres. Il faut que vraiment que l'ensemble des structures ou bien organisations qui interviennent dans ce domaine-là, qu'on ait la même communication. Pour qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont informés par Aïssatou, que l'information qu'Aïssatou soit la même que Bassirou va lui remettre, etc. Je pense aussi que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Parce que tant qu'aujourd'hui, il y a ce flou d'informations chez les jeunes, ils ne pourront pas souvent savoir. Et les parents n'auront jamais confiance. Ils diront, voilà, les jeunes, n'ont pas la bonne information. Ceux-mêmes qui donnent l'information ne sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils disent. Donc, je pense que vraiment c'est important. C'est un travail d'amour. Et qu'on peut vraiment réussir si tout le monde s'engage. Et que aussi les parents, la société de manière générale, ne laissent pas seulement ce soin à l'État ou aux organisations de société civile. Parce que l'éducation, ça nous concerne tous. Tant que ce soit les organisations ou aussi même que les parents en tant que tel.
Basir nous dit que c'est l'affaire de tous. Alors, M. Magnan, pensez-vous pas que c'est aussi le rôle des parents de parler de méthodes contraceptives à leurs enfants?
Moi, en tant que parent, je dois parler de la contraception et des autres aspects de la sexualité à mes enfants. C'est pas interdit, c'est ça que je dis. La religion ne m'interdit pas de parler de ça. Ce que la religion m'interdit, si je dois parler de l'éducation sexuelle, c'est peut-être les questions de fornication, etc. Là, la religion est claire sur ça. Donc moi, parent, aujourd'hui, j'ai le devoir, dans l'éducation de mes enfants, de leur parler ça. Et on a souvent tendance à dire, oui, vous parlez à vos enfants de sexualité, donc il va faire n'importe quoi. Pour dire un tout petit peu, même nous qui sommes issus dans cette même communauté sénégalaise, cette même société, nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons prévenir, protéger, encadrer les enfants. On leur dit non, on te parle ceci, on ne te parle pas de cela. Or, l'éducateur ne doit pas avoir de frein, ne doit pas avoir de barrière. Quand tu vas assurer une bonne éducation sexuelle des enfants, tu leur parles de tout ce qui a lié à la sexualité, y compris la contraception. Parce qu'aujourd'hui, le message, le bon message ou la bonne information que tu lui donnes en matière de contraception, les jeunes sont entre eux. Si moi, parent, j'ai de bonnes informations, je donne au père éducateur Bass ou à mademoiselle, elles vont donner la bonne information et de surcroît, ça va permettre aux uns et aux autres de pouvoir vraiment avoir ces bonnes informations et de pouvoir organiser leur vie. Maintenant, la question c'est quand on parle de contraception, on dit on ne parle pas. Or, on ne va pas se leurrer. Les jeunes ont des rapports sexuels avec les adultes. Les jeunes ont des rapports sexuels avec eux. Les jeunes sont victimes de viols, etc., etc. Ça, c'est la réalité.
Alors, est-ce que l'un d'entre vous a vécu des histoires par rapport à la contraception? Ah, Basir, vous avez quelque chose à nous raconter?
Voilà, moi, je vais juste un peu partager mon expérience en tant que jeune. Avant, je passais souvent devant le portail de l'ASBEF parce que c'était la route où j'allais à l'école. Mais une fois, ils sont partis à l'école et ça m'a beaucoup intéressant le fait que des jeunes comme moi me parlaient de la sexualité. Ils le parlaient de manière très aisée. Et là que j'ai adhéré, à chaque fois maintenant, ils m'ont formé jusqu'à ce que je devienne pédagogue avant l'école. Et la première fois que j'ai animé une session, c'était chez moi. On était en train de parler même des grossesses. Et là aussi, à certains moments, il y a des jeunes qui nous ont dit, voilà, il y a les préservatifs, maintenant il faut nous montrer comment on utilise ça. Et c'était chez moi, je dis, ma mère était de l'autre côté. Et là où j'ai mis le préservatif pour montrer aux jeunes comment on l'utilise, automatiquement elle s'est levée. Elle m'a regardé avec des yeux, vraiment, c'était comme si elle me menaçait, quoi, en quelque sorte. À la fin de la session, elle me dit, tu arrêtes tout, en fait. Je ne veux plus que tu participes à cette activité parce que ça te pervert, etc. Il a fallu un peu un processus de communication pour qu'elle comprenne que cela ne m'a pas peur. Parce qu'au début, elle m'interdisait même de sortir ou bien de faire certaines activités. Parce que pour elle, c'était vraiment fini. Voilà, j'étais gâté, j'étais sexuellement actif. Or, ce n'était pas le cas. Et au cours du temps, elle a compris que vraiment, que ça m'a même aidé, ça m'a forgé vraiment à avoir une sexualité responsable. Ouais, donc souvent, les parents n'ont pas souvent cette communication ou même cette information. Parce que quand tu parles sexualité, souvent, tu es catégorisé, soit par la famille ou par la société. Je pense que maintenant, ce sont des efforts qu'ils commencent à le comprendre. Hein. On était en train de faire une session sur l'éducation sexuelle. Il y avait un parent qui est venu sortir son enfant du lot pour dire que son enfant ne doit pas faire la formation sur l'éducation sexuelle. Or que cet enfant-là était sexuellement actif et ces sessions lui ont permis d'avoir la bonne information et de pouvoir gérer cette sexualité. Parce qu'il fallait un peu après que l'enfant essaie de communiquer avec sa mère pour qu'il fasse comprendre que l'importance que ces informations que nous lui donnons pour avoir une sexualité responsable. Souvent aussi ce processus de communication, souvent que les parents ne comprennent pas. Comme l'a dit Mania, il faut que vraiment que les médias, que toutes les canaux puissent vraiment être utilisés pour qu'ensemble nous ayons le même niveau d'information sur ça. Sache que vraiment c'est un besoin qui est là pour tous les jeunes.
D'accord. Peut-être qu'un jour l'Afrique sera au même niveau de compréhension que les Occidentaux sur la question. Alors, Aïssatou, est-ce que tu as vécu la même situation que Basirou?
Et pour rebondir, c'est vrai qu'il y a des cas, mais pour moi, je dirais Alhamdoulilah parce que ce n'est pas le cas chez moi. Depuis toute petite, maman nous parle de la sexualité. Peut-être que c'est son niveau d'instruction qui a fait qu'elle nous parle de ça. Elle est professeure d'économie familiale, donc elle n'a pas cette gêne de nous parler de la contraception ou bien de l'éducation de la sexualité d'une manière générale. Mais je pense que l'émission est très importante et au sortir de cette émission, peut-être qu'on va entreprendre des activités en collaboration avec les structures de santé. Mais aussi, il faudrait que, en dehors de la communication, de la sensibilisation, il faudrait que l'État installe des structures de santé qui sont spécifiques aux jeunes. Parce que si on voit le cas d'Aminata, elle a dit que lorsqu'elle était arrivée au centre de santé, elle a trouvé des femmes qui avaient l'âge de sa mère et elle avait honte peut-être de demander. Et donc, c'est bien que l'État installe des centres de santé peut-être ou bien des structures qui sont spécifiques aux jeunes pour que les jeunes puissent avoir accès facilement à la contraception ou bien à connaître la santé de la reproduction. Parce que moi, je pense que c'est un droit de connaître la santé de la reproduction et la contraception est incluse dans cette santé de la reproduction. C'est ça mon point de vue, de manière générale.
Voilà.
Je veux juste peut-être, si vous me permettez, par rapport à ce qu'elle a dit, je pense que des efforts sont en train d'être faits. Je ne dédouane pas l'État. Nous, au niveau de la société civile, nous avons aussi aménagé des espaces pour offrir des services aux adolescents et aux jeunes. Vous allez au niveau de l'État, de plus en plus, le ministère en charge de la santé, de la santé est en train d'aménager des espaces adolescents et jeunes. Sous l'appui de certains partenaires, vous allez au niveau des centres conseils ados. Donc, ce sont ces efforts. On est en train même de faire une cartographie de ces. Parce que j'ai participé à ce processus avec le ministère de la Santé, pour que, in fine, je pense que 2017 va être vraiment un défi par rapport à l'accès des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, surtout par rapport aux espaces jeunes que nous animons. Donc, l'État est conscient de cela. Maintenant, la santé étant une affaire de tous, y compris les communautés, c'est peut-être mener des plaidoyers. Cette année, on a beaucoup d'actions de plaidoyer pour le financement même de ces espaces jeunes. Parce que nous voulons que ça soit des espaces pour les jeunes, par les jeunes, ou même des prestataires jeunes sont en train d'être formés. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, et je pense que l'État est dans cette dynamique-là. Au niveau de ma structure, nous avons formé que des jeunes prestataires. Des jeunes prestataires qui sont en mesure d'accueillir des jeunes pour mieux communiquer avec eux. Et la formation ne s'arrête pas simplement au niveau des prestataires. Même les gardiens sont préparés pour un bon accueil aux adolescents et aux jeunes. Et on leur crée carrément des circuits par rapport à ça. Donc, je suis vraiment rassuré que cette question-là soit soulevée dans ce débat. Et nous allons tous porter ce plaidoyer-là. Parce que l'accès aux services pour les adolescents et jeunes, c'est un droit sur lequel tout le monde doit y veiller pour la bonne sécurité de nos enfants et leur devenir.
Merci à vous pour ces éclairages. Nous allons donner la parole à un spécialiste pour nous apporter plus d'informations sur le sujet. Mesdames, Messieurs, votre rubrique éclairage des spécialistes. Nous allons accueillir aujourd'hui Madame Tiama Fatou Touré, sage-femme, travailleur social, également coordonnatrice au niveau du réseau Sigil Jigen. Madame Tiam Fatou Touré, bonjour. Vous êtes sage-femme, travailleur social, chargée de programme au niveau du réseau Sigil Jigen. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception. Ma première question, quelles sont les différentes méthodes de la contraception?
On a les pilules, implants, injectables. On a une méthode de barrière. On a également les méthodes naturelles. Donc la pilule, elle est différenciée dans ses formes fondamentales puisque c'est une pilule qui s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient allaitantes ou non, qu'elles soient d'âge moyen ou jeune, ou d'âge avancé. Au début, on avait le Norplan remplacé par le Jadel. Aujourd'hui, nous avons l'implant non, qui est là avec le Jadel, mais nous avons également l'injectable en IM, qui est le DMPA IM. Mais aujourd'hui, vous avez vu que le Sénégal a ajouté un DMPA en sous-cutané. DMPA SC, qui s'appelle Sayanapres, et qui va révolutionner l'environnement communautaire et l'environnement jeune. Les études l'ont montré. Et ce Sayanapres-là est fondamentalement important pour l'équité. L'équité au niveau des femmes, mais également pour l'accès au niveau des produits. Donc, je pense que nous avons le condom, je ne l'ai pas cité, mais c'est dans les méthodes de barrière. Nous avons également le dispositif intra-utérin, qui est également une méthode aujourd'hui qui révolutionne parce que sa durée de vie est de 13 ans. La femme peut l'utiliser et le garder 13 ans. Le garder 13 ans ne veut pas dire qu'elle est obligée de le garder 13 ans, mais entre-temps, si elle veut enlever, elle enlève. Et c'est une méthode vraiment aujourd'hui également qui était un peu endormie, mais qui se réveille parce qu'elle fait partie des méthodes à longue durée d'action avec le Jadel et avec l'implant. Nous avons également une introduction nouvelle, c'est l'anneau vaginal à progestérone. Et vous voyez qu'il est en train d'être prisé également de petit à petit par les femmes qui l'ont essayé et utilisé. Donc voilà un peu ramassé les méthodes de planification familiale qui constituent la gamme des méthodes au niveau du Sénégal. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'au Sénégal, nous avons un élément important. Nous avons l'IPM, le push model, qui aujourd'hui a été un peu adopté au niveau culturel avec les stratégies Yegesina et Yexina. Donc aujourd'hui, dans tout le pays, à travers tout le pays, même dans les zones les plus reculées, nous avons les produits contraceptifs qui sont presque à rupture zéro.
Pourquoi il est important que les jeunes puissent avoir accès à la contraception?
On ne peut plus nier que les jeunes ont besoin de cette contraception. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de planification familiale, surtout des jeunes, en ne parlant pas des dividendes, de la capture du dividende démographique. Donc ça, c'est un peu dans le cadre du développement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la planification familiale sans parler globalement de cette mortalité qui nous guette. En tant que femme âgée de 15 à 49 ans, ça veut dire les femmes en âge de fécondité et en âge de reproduction. Et quand on parle de la femme, on parle forcément de l'enfant. Donc voyez-vous que la planification familiale également devient un levier important de lutte contre la mortalité maternelle. Et cette importance est acceptée de tous. Les jeunes filles qui quittent l'école après une grossesse, les jeunes ont besoin d'être encadrés de manière globale, d'être écoutés de manière globale, de participer à construire les nouveaux paradigmes de manière globale, mais également, dans une certaine mesure, d'utiliser la contraception. Et au décours de Ouagadougou, nous, ce que nous disons, c'est que la révolution contraceptive a sonné, et elle a sonné pour les jeunes.
Y a-t-il des effets secondaires à l'utilisation de ces méthodes contraceptives?
Il n'y a pas de risque zéro. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on est en train de prendre un produit, on nous donne la posologie. Ça veut dire comment prendre et on nous dit quelles sont les précautions à prendre, qui doit prendre, qui ne doit pas prendre. Donc, il n'y a pas de risque zéro autour des médicaments. Et les méthodes de planification familiale en elles-mêmes, pour l'essentiel, renferment des médicaments. Donc, ces effets secondaires, comme on les appelle, peuvent apparaître. En général, quand ils apparaissent, la cliente qui avait vraiment bénéficié de la méthode doit revenir au niveau de la structure de santé où elle avait pris sa méthode ou bien au niveau de la structure la plus proche. Ce que nous déplorons et que nous ne recommandons pas, c'est que la femme fasse son automédication. C'est ce qu'on remarque de tout temps, elle fait son automédication et à un moment donné, elle est submergée par le regain des effets secondaires. C'est à ce moment-là qu'elle se rend au niveau de la structure la plus proche ou la structure la mieux indiquée. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Comme effet secondaire, nous allons parler des petits saignements. Les femmes se disent tout le temps et font tout le temps la rumeur qu'il ne faut pas prendre telle ou telle méthode de planification familiale à cause de cette rumeur de saignement. Mais c'est vraiment un effet secondaire normal qui peut être réduite, voire même inhibée par le simple fait de retourner à la structure de santé.
Madame Thiam Fatou Touré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes travailleur social, sage-femme, chargée de programme au niveau du réseau Sikil Jigen. Voilà, j'espère que les informations de notre spécialiste vous seront utiles. N'ayez pas peur d'aller vers les structures de santé pour vous informer. Alors, dernière question. Monsieur Mandian, quels sont les obstacles qui limitent l'accès des jeunes aux informations et services en matière de contraception?
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'obstacle. Bon, les structures sanitaires ou les structures qui offrent des services en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, vont devoir mettre davantage le point sur l'accès des jeunes en leur donnant la bonne information, avoir un personnel vraiment accueillant pour les jeunes en leur offrant vraiment des services adaptés à leurs besoins, à des heures adaptées à leurs besoins. Donc je pense que c'est ça que je disais tout à l'heure. Cette année, nous allons beaucoup mettre le focus sur le plaidoyer pour que les structures qui offrent des services puissent vraiment y mettre le focus par rapport à l'accès des jeunes en termes de services, mais aussi en termes d'information. Aujourd'hui, la mortalité maternelle est triste pour notre pays. Les données sont claires. Aujourd'hui, au Sénégal, chaque jour, 5 femmes meurent en donnant vie. Et dans ces 5 femmes-là, 3, c'est des adolescents et jeunes. Allons-nous taire, dire « Ok, Ndogoluyala » ou bien « Non ». Nous devons pouvoir les préparer. Parce que les raisons qui font que les jeunes ont des rapports sexuels, c'est énorme, c'est vaste. On ne les maîtrise pas. Et le fait de parler de sexualité chez les jeunes ne leur pousse pas à avoir des rapports sexuels.
Pour finir, vous les jeunes, qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter l'accès aux informations sur la contraception?
Il faudrait que les gens qui connaissent les méthodes contraceptives au sein de la famille ou bien qui ont les expériences de pratiquer la contraception en parlent aux autres. Et au sein de la communauté, comme l'a dit notre spécialité tantôt, c'est d'entreprendre des campagnes de sensibilisation, des plaidoyers pour permettre à la population de maîtriser la contraception. Et pour au niveau des services de santé, c'est d'élaborer un nouveau programme de formation, peut-être d'éducation à l'intention des prestataires de services pour éliminer les obstacles inutiles liés à l'accès à la contraception. Et j'ai aussi dit tantôt, ce sera une répétition, de créer des structures qui sont spécifiques aux jeunes pour permettre l'accès facile à la contraception.
C'est d'essayer de voir par rapport aux exemples de bonne réussite. Parce qu'aujourd'hui, quand ça fait allusion à l'aspect par rapport aux espaces jeunes qui sont mis en place, ça permet vraiment aujourd'hui aux jeunes d'avoir l'information et l'offre de services qu'ils veulent et qui soient très adaptés par rapport à leurs besoins. Parce que c'est un exemple aujourd'hui que d'autres aujourd'hui peuvent faire, puissent bénéficier vraiment, que tous les jeunes puissent en bénéficier. Et l'autre aussi, ils l'ont dit, hein, c'est l'information, c'est vraiment comment faire pour que les jeunes puissent avoir l'information partout, que ça soit à la maison, dans la communauté, qu'à l'école, que vraiment qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas un déficit d'informations chez les jeunes. Aussi, l'autre, c'est de lever ce tabou-là, que les gens sachent que vraiment la sexualité, comme l'a dit Magnan, ça fait partie de notre vie. Et c'est-à-dire même, c'est quelque chose vraiment que nous vivons au quotidien. Donc, il faut en parler. Qu'on le dise ou pas, en tant que jeunes, on sait vraiment que nos pères souvent sont sexuellement actifs. Et souvent, les raisons, c'est ce manque de communication qu'ils n'ont pas et qui ne leur permettent pas aujourd'hui d'avoir des informations. Donc le plaidoyer que je vais faire vraiment, que l'État, comme il l'a dit, ils sont en train de faire des efforts et c'est très bien, mais qu'ils continuent vraiment ce processus-là pour qu'aujourd'hui, ça soit vraiment étendu, que l'ensemble des jeunes puissent vraiment puissent bénéficier de ces offres de services et d'informations.
Voilà, il est souvent facile de trouver des personnes qui s'engagent pour la démocratie et les droits de l'homme, mais peu de gens se sentent concernés par le combat sur l'accès à la contraception pour les jeunes. Ce n'est pas le cas pour notre champion. Lui, il est convaincu que c'est un combat aussi noble que la démocratie et les droits de l'homme. D'ailleurs, c'en est un. Mesdames et messieurs, votre rubrique Parole de champion, c'est tout de suite et maintenant.
Bonjour, je m'appelle Ousmane Diouf. Je suis le coordonnateur de l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale du Sénégal. Mon engagement sur les questions de santé de la reproduction et la planification familiale me vient il y a de cela à peu près 10 ans ou 12 ans. Très tôt, en tant que jeune, je me suis très tôt engagé sur les questions de SR. Parce qu'il faut le dire, dans nos quartiers, il y a ce qu'on appelle les regroupements de jeunes, associations de jeunes, mouvements associatifs. À cette époque-là, on avait pu dénombrer à peu près plus d'une dizaine de jeunes qui étaient enceintes. Et c'était des jeunes qui avaient entre la tranche d'âge 14-18 ans. Et là, ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, bon, par rapport à ces situations, qu'est-ce qu'on doit faire? Et dès lors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas m'engager sur ces questions-là et essayer de renforcer quelque chose. Et c'est en cette époque-là qu'il y avait un de mon cousin qui était dans le milieu et qui travaille beaucoup sur les questions de santé de la reproduction, que je me suis approché de lui et par la suite, il m'a enrôlé à travers un programme qui s'était dans le quartier, c'était un programme de relais de bénévolat, qu'il me prenait, qu'il m'envoie dans les sessions de formation, de renforcement de capacité sur la santé de la reproduction. Et par la suite, ça a commencé que j'ai eu la chance de participer à des ateliers de formation, de sensibilisation. Et dès lors que j'ai commencé, de mon côté, à former des jeunes, à faire des causeries, des sessions de dialogue, des sessions de démultiplication pour partager avec les pères la connaissance que j'avais. Donc depuis lors jusqu'à présent, je suis dans le milieu, je continue à faire des formations sur la santé de la reproduction. C'est même d'où l'idée même qui m'a poussé avec d'autres jeunes qui ont eu à acquérir d'autres compétences sur la SR, qu'on a eu jugé nécessaire de mettre en place une alliance constituée uniquement de jeunes et qui ont une expérience sur les questions de santé de la reproduction. Bon, les actions que nous menons pour l'accès aux questions de contraception sont nombreuses. Donc, nous pouvons dire que nous menons pas mal d'activités de sensibilisation dans les écoles. Nous menons aussi des activités de formation, de renforcement de capacité, même nous, des VAD, des sessions de dialogue, des sessions de multiplication. Je pense que les activités que nous menons sont nombreuses. Parce qu'il faut le dire que nous sommes un peu organisés à travers notre structure. Mais aussi, nous appuyons sur les expériences que nous avons en tant qu'aussi jeunes qui ont des besoins sur la contraception, aussi sur les questions de santé de la reproduction. Que nous jugeons nécessaire qu'il y a des jeunes qui ont des besoins. Et à travers ces besoins-là, que nous jugeons nécessaire d'organiser des sessions de formation. Parce que pour nous, la formation est capitale. Parce que renforcer la capacité d'un jeune va permettre aussi à ce jeune-là de permettre aussi de sensibiliser un autre père. Au-delà aussi de la formation, dans les écoles, nous organisons ce qu'on appelle des quartiers tours dans les quartiers à travers des projections de films. Parce que au-delà de l'éducation, il y a des jeunes qui retiennent mieux à travers l'image. Nous organisons des projections de films dans les quartiers sur la planification familiale. Moi qui vous dis que dans une organisation, nous ne pouvons pas rester une journée ou deux journées sans pour autant ne pas recevoir des jeunes qui viennent nous voir. Soit ils nous viennent après avoir fait des rapports sexuels pour nous demander quoi faire, ou bien qu'ils viennent parce qu'ils sont déjà en état de grossesse pour qu'ils nous demandent de les orienter. Et que souvent, quand on fait le counseling et qu'on revient sur la contraception, il y a même des jeunes qui nous disent que nous, on ne savait pas que la contraception existe. Et pour la plupart, la contraception est une méthode uniquement pour les adultes. Donc, pour nous, il est important de parler de la contraception. Parce que pour nous, le jeune même qui n'est pas sexuellement actif, il doit être informé de la contraception. Au moment du mariage, pouvoir carrément prendre des décisions libres, éclairées, espacer les naissances. C'est ce que nous faisons. Le message que je vais adresser aux décideurs, c'est d'abord qu'ils puissent prendre en compte les besoins des jeunes. Il faut le dire qu'il y a récemment un nouveau plan stratégique national sur la planification familiale qui vient d'être récemment lancé. Mais il est important qu'avec ce nouveau plan d'action national, qu'on puisse prendre en compte les besoins des jeunes. Parce qu'il faut le dire qu'il y a des jeunes qui ont des besoins d'accéder aux services de la planification familiale. Donc, pour respecter les droits en santé sexuelle et reproductive, il est important de créer un cadre permettant que ce soit un cadre législatif ou créer l'environnement permettant aux jeunes d'accéder à des services de santé de qualité sans stigmatisation, sans discrimination. Et au-delà de ça, aussi appeler à ce que l'État puisse appuyer l'investissement pour l'accès à des services et aussi appuyer les organisations qui font des campagnes de sensibilisation. Parce que pour nous, l'information est importante, il est de taille. Si le jeune a plus d'informations, il a plus de sens de se protéger, il a plus de sens d'avoir un bel avenir à l'abri des crosses précoces et non désirées. Mais je suis aussi profité de cette occasion aussi pour dire aussi à certaines mères qui sont dans les collectivités locales, parce que la santé est une compétence transférée. Eux aussi, ils ont un rôle à faire à l'accès des jeunes à des services de santé de qualité, parce qu'ils ont un rôle d'investir dans la santé des jeunes. Parce qu'on ne doit pas laisser uniquement à l'État ou les partenaires à faire ou à investir. Nous sommes, la jeunesse sénégalaise est une jeunesse qui est là et que nous avons un rôle à jouer et que les maires aussi à travers le collectif local doivent allouer des budgets permettant à ces jeunes-là d'accéder à des services.
Voilà, je vous remercie, chers invités. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et championnes engagées dans ce domaine à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. C'est sur ce message fort que nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour aborder un autre sujet qui concerne notre jeunesse, l'avenir de notre cher pays.